Des sous et des amants. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Denis Robert, journaliste et auteur de Révélation, La domination du monde, et Clearstream, L'enquête, qui devrait sortir bientôt aux éditions Les Arènes. Alors je suis comme tout le monde évidemment, j'avais entendu parler de Clearstream, mais en fait on m'avait plus parlé d'une affaire politique avec De Villepin, Sarkozy et Chirac en guest stars, plutôt que de ce qui se passait réellement à Clearstream même. Moi ce que je voulais comprendre, c'est ce que c'était Clearstream, comment ça fonctionnait et quel était le problème. Alors je suis directement allée voir Denis Robert. Vraiment pas facile de le coincer, même presque du genre Mission Impossible. Et puis un jour, je re-téléphone à l'attaché de presse de Denis Robert qui me dit « Vous pouvez être aux éditions des Arènes dans une demi-heure ?» Je négocie à trois quarts d'heure, fonce comme d'une ratée et hop, Denis Robert était là, devant le micro, dans un petit jardin intérieur, petits oiseaux qui cuit-cuitent et portes qui claquent. J'avais droit à une demi-heure de questions candides. Voilà le travail. Finalement, le commun des mortels ne comprend rien à l'affaire Clearstream à proprement parler, c'est-à-dire la première affaire Clearstream, pas celle qui concerne les politiques. Vous pouvez nous expliquer ?
L'affaire Clearstream, c'est en fait le combat qu'il y a entre moi en tant qu'écrivain et les quelques amis avec qui j'ai fait les films. Et c'est une multinationale de la finance, donc qui s'appelle Clearstream, qui était la propriété des banques les plus importantes de la planète, qui a été fondée au début des années 70, et qui aujourd'hui appartient, suite à mes livres d'ailleurs, appartient à la Deutsche Börse Clearing, qui est la société de bourse allemande. Alors Clearstream, c'est d'abord un monstre informatique qui brasse énormément d'argent. En 2001, j'avais calculé qu'il y a 250 fois le budget de la France qui passe par les canaux informatiques de Clearstream et qui aussi archive énormément de données financières et énormément de valeurs aussi. C'est de l'ordre de, on va dire, 50 fois le budget de la France qui sont dans ces coffres-forts électroniques. La fonction de Clearstream, elle est triple. C'est à la fois un transmetteur, c'est-à-dire que c'est une société qui transfère des fonds et des valeurs un peu partout sur la planète. Elle archive, comme je vous dis, donc c'est aussi un notaire. Donc elle identifie les propriétaires de ces valeurs et de ces titres. Et c'est aussi une banque, donc qui cautionne des prêts bancaires, qui cautionne des emprunts, qui prête et qui emprunte. C'est comme ça qu'on retrouve dans la crise argentine, par exemple, c'est Clearstream qui communiquait au nom des banques quand il y a eu la crise en Argentine. Mon premier livre, en tout cas mon enquête, d'abord ça a permis de révéler l'existence de ces multinationales de la finance, où sont concentrées énormément d'informations financières, et puis d'éclairer sur le fonctionnement complètement trouble et opaque de cette multinationale. Et donc l'accusation que je porte est que une des fonctions de cette multinationale, c'est de dissimuler des transactions. Et ensuite je vais même plus loin dans l'enquête puisque je prouve qu'elle efface aussi des transactions. Donc pour empêcher au fisc, aux citoyens, à tout contrôle d'échapper à ces fameuses transactions. Parce que si on coupe le lien entre un acheteur et un vendeur, il n'y a plus de trace possible entre les deux, quoi. Et donc c'est une accusation assez lourde que je porte. Et l'autre révélation, c'est aussi de dire que pour les transactions qui ne sont pas effacées, qui restent dans le système, l'archivage fait qu'il est possible de remonter des itinéraires financiers, de lutter contre l'évasion fiscale, de voir à qui profitent les méfaits et les transferts, etc., quoi. Donc toutes ces révélations-là, le public était complètement tenu éloigné de ces informations-là, et donc on a essayé de me faire taire. Donc c'est pour ça que 5 ans après la sortie du livre, je subis encore des procès nombreux que je gagne en général, mais c'est un combat qui est harassant et dans lequel je suis un peu fatigué.
Et Clearstream, c'est quelque chose de singulier dans le paysage financier ou il y a d'autres Clearstream ailleurs ?
Il y a deux multinationales, deux chambres de compensation internationales qui sont Clearstream et Euroclear. Euroclear a son siège à Bruxelles et un peu plus contrôlée quand même que Clearstream. Parce que Clearstream, sa particularité, c'est qu'elle a son siège social à Luxembourg, qui est quand même le paradis fiscal, bancaire et judiciaire le plus important de la planète. parce que c'est les montants financiers, enfin l'argent qui passe par Luxembourg est sans commune mesure avec celle qui peut passer à Monaco, à Jersey ou dans les autres paradis fiscaux. Quoi.
Une chambre de compensation, c'est quoi ?
Ben, la compensation bancaire, c'est une technique bancaire qui est d'ailleurs ancestrale, qui s'appelait l'awala avant. C'était les Indiens qui avaient inventé ça. Les Arabes aussi ont beaucoup pratiqué ça. Au départ, si vous voulez, de l'histoire, c'est tous ces clans qui plutôt que de s'échanger l'argent, compensent entre eux. Quoi. Ce qui existait dans la compensation bancaire qui se pratiquait dans les clans ou dans les cellules familiales et qui marchait à la confiance, c'est pratiqué aussi au niveau des banques. C'est-à-dire que là, pour ne plus avoir mais ça c'est plutôt une avancée technique, c'est-à-dire que avant l'invention du clearing, parce que c'est l'autre nom de la compensation, c'est le nom anglais, comment ça se passait quand vous étiez en Amérique et que vous vouliez acheter ou vendre des actions en Italie, vous vous déplaciez physiquement, quoi, et donc vous preniez des risques, y compris physiques, de voir l'argent que vous aviez disparaître. Et le fait d'avoir inventé la première invention de Clearstream, d'ailleurs Clearstream s'appelait à l'origine CEDAL, Centrale de Livraison des Valeurs Mobilières, c'est des banques qui ont mis en commun une masse d'argent importante et qui l'ont laissé dans un coffre et qui ensuite ont compensé les échanges entre eux. C'est-à-dire que quand vous prenez une journée de transactions chez Clearstream, vous n'avez aucun échange physique d'argent. À la fin de la journée, ils prennent tous les clients de la firme, c'est-à-dire que si BNP a prêté de l'argent ou a vendu des titres à la Société Générale, qui en a vendu à la Banque Populaire de Norvège, qui en a revendu à BNP, qui en a revendu, vous voyez, tous ces circuits-là, à la fin, ils font les soldes et les entrées et les sorties, et puis c'est un espèce de curseur qui bouge, mais il n'y a pas de déplacement, c'est-à-dire que tout reste à l'intérieur du système. C'est là où on se rend compte que c'est là où on peut parler de virtualité de l'argent, parce qu'il y a plus de... Ce qui change, en fait, à l'intérieur de Clearstream, c'est le nom du propriétaire des titres ou des valeurs. Les titres, c'est, vous voyez, c'est des actions, des obligations ou de l'or aussi. Et puis, il y a aussi des échanges de cash dans Clearstream. Mais donc, c'est tout ça qui se compense à l'intérieur de ce système. Alors, nous, ce qu'on a révélé, c'est que normalement, c'est des institutions financières sérieuses, respectables, etc. Donc, on révèle aussi par notre histoire que toutes ces institutions sérieuses, respectables, qui font de la publicité, qui ont des vitrines partout, je pense à BNP Paribas, à Société Générale, à toutes ces grosses banques, on révèle, parce qu'on a eu une photographie de l'intérieur de Clearstream, qu'elles ont toutes des filiales dans les paradis fiscaux. BNP a une filiale à Vanuatu, la Société Générale a des comptes à Caïman, enfin, etc. Quoi. Donc, toutes leurs petites affaires, on va dire, ils les font là-bas, quoi. Donc, donc ça, c'est un premier problème. Et ce qu'on révèle aussi, c'est que dans la chambre de compensation, il y a une grande, j'allais dire une majorité, mais il y a une grande proportion de clients qui sont complètement troubles. Et encore, je suis gentil quand je dis troubles, quoi, parce que on retrouve des sociétés offshore, des trusts, des sociétés qui sont absolument pas, qui ont aucune réputation, qui sont très discrètes. On retrouve la banque noire de Elf, on retrouve tout un tas de multinationales qui normalement devraient pas avoir de compte là-dedans. Je pense à Unilever, à Siemens, enfin plein de groupes comme ça. Donc on voit bien que tous ces gens-là sont là pour dissimuler leurs affaires, quoi. Et donc nous, ce qu'on écrit et ce qu'on sort, ça gêne tous ces gens-là, quoi, parce que ça gêne le business, parce que donc les révélations que je sors et que j'écris, sur lesquelles donc encore une fois je gagne mes procès, elles peuvent pas percer le mur de l'opinion, parce que si Clearstream s'effondre, si ce que je dis est vrai, il faudrait qu'il y ait des enquêtes, il faudrait que ça soit mieux contrôlé, etc. Et ça, c'est tout simplement pas possible structurellement, parce que Clearstream dans ce cas s'effondre. Et si Clearstream s'effondre, c'est le plus grand krach boursier qu'il y a eu dans le siècle, parce que Clearstream est devenu un outil indispensable à tout ce fonctionnement et à tous ces mouvements d'argent, quoi.
Il pourrait garder le pôle chambre de compensation officielle et pas avoir des comptes cachés, etc.
Bah oui, mais ça c'est je veux dire, oui, dans les rêves, quoi. C'est pas possible dans la réalité. C'est là où on voit la réalité de tout ça. Parce que si vous voulez, il y a une chose que les altermondialistes peut-être ne comprennent pas assez bien, c'est que le combat contre les paradis fiscaux est un combat perdu d'avance. Les paradis fiscaux sont des leurres. aller chercher la solution des problèmes dans ces lieux-là, c'est pas possible. On les trouvera jamais. Parce que les paradis fiscaux, par essence, sont d'abord des paradis bancaires et surtout des paradis judiciaires. Donc on n'arrivera jamais. C'est pas à Caïman, à Jersey ou à Vanuatu qu'on va trouver des solutions. C'est à Luxembourg. C'est à Clearstream. C'est là, dans ces archives, que s'inscrit vraiment la propriété des titres. Quoi. Il vaut mieux se bagarrer contre Clearstream. Il vaut mieux essayer de se dire que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'essayer d'alerter l'opinion pour que ces chambres de compensation soient contrôlées par des structures indépendantes liées à la Commission européenne, liées à une banque centrale européenne, liées à je sais pas quoi, même à l'OMC, disons. À un moment donné, voilà, c'est ce problème-là qui serait vraiment fondamental. C'est bien plus important que la taxe Tobin ou que ce genre de choses, quoi.
Des sous et des hommes toujours en compagnie de Denis Robert. Alors, j'avais compris à peu près ce que c'était que Clearstream, mais en fait, je me disais intérieurement, bah oui, il y a peut-être des opérations cachées, des trucs pas clairs, mais à la limite, en quoi cela me concerne-t-il? En quoi cela nous concerne-t-il, nous, les gens? Alors, j'ai essayé peu à peu de faire aller Denis Robert sur ce terrain. Suite de l'entretien. Si j'ai compris, Clearstream, c'est une espèce de structure qui est au-dessus, finalement, des paradis fiscaux.
Et Clearstream, alors là maintenant on peut être plus précis si vous voulez, c'est, quand je disais c'est un monstre informatique, son siège est à Luxembourg, donc sa maison mère est en Allemagne, à Francfort, mais c'est présent dans 107 pays, dont 40 paradis fiscaux. Là, dans la dernière liste que j'avais, il y a 33 000 clients donc qui étaient présents dans 107 pays et 40 paradis fiscaux. Et ces gens-là, vous voyez, si on fait un tableau de la planète, vous voyez ce que ça représente, quoi. Clearstream couvre quasiment toute la planète. Et donc, ces gens-là échangent des titres, vendent des valeurs, etc., en toute opacité grâce à Clearstream. Mm. Et voilà, c'est un problème d'évasion fiscale, c'est un problème de... Moi, je dis, j'ai expliqué dans mon livre la domination du monde, j'ai une théorie, enfin, le mot est fort, mais... Je compare souvent ces problèmes de finances internationales à des problèmes d'astrophysique. C'est-à-dire que les astrophysiciens, à un moment donné, se sont rendus compte, c'est une chose qui est avérée aujourd'hui, que la matière noire de l'univers était plus importante que la matière lumineuse. Vous voyez, quand vous regardez le ciel la nuit, vous voyez des étoiles, et la matière noire est une matière qui existe et qui est prise en compte maintenant par les astrophysiciens. Et ils se sont rendus compte de son existence en étudiant le mouvement, on va dire, des planètes ou le mouvement des étoiles. Et on s'est rendu compte que ces étoiles, quand elles meurent, il y a forcément une force qui est résistante. Donc ça prouve que cette force existe, même si on la voit pas, même si on la touche pas. Maintenant, si on métaphore ça et qu'on transpose ça à l'univers financier, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que il y a une matière noire de la finance, qui est ce qui passe par les paradis fiscaux, par exemple, qui a plus, à mon avis, d'importance en termes de masse financière que la matière lumineuse, qui est celle que nous présentent les médias. Toutes ces informations qui nous reviennent sur la finance, les indices boursiers, le CAC, etc., ne prennent jamais en compte la matière noire. Et pourtant, la matière noire est là, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Si on commence à étudier les mouvements d'argent, on se rendra compte que, par exemple, l'économie de la drogue, je pense à la drogue parce que c'est les masses les plus importantes, bah, elles rentrent bien à un moment donné dans l'économie normale, quoi. Et donc, parce que pour imaginer ça, d'ailleurs, il y a une image qu'on utilise toujours pour parler de la finance parallèle. On parle du trou noir de la finance, etc. Donc, avec mon enquête sur Clearstream, j'ai localisé un endroit par où ça passe. C'est-à-dire, il fallait bien que toute cette masse d'argent qui voyage et qui véhicule, à un moment donné, elle s'échappe. Et elle passe par une espèce de trou d'aiguille qui était caché dans une espèce de masse qui était Clearstream et le Luxembourg. Et hop, elle passe par là et elle va dans un autre univers que j'appelle la matière noire de la finance. Et donc... Ce fonctionnement-là était très difficile à expliquer et à comprendre. Mais aujourd'hui, j'en suis non seulement persuadé, mais je prouve ça par les documents que j'ai sortis. C'est à la fois intéressant et en même temps, le problème que j'ai, c'est qu'une fois que je l'ai dit, que je l'ai écrit, que je l'ai montré, que j'ai fait des films, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Vous avez fait un film aussi, dont le titre approximatif était... L'affaire Clearstream, expliquer un ouvrier de chez Deo.
Ouais.
Quel lien faites-vous entre l'existence de structures comme Clearstream et, disons, la vie réelle, éventuellement le licenciement d'ouvriers de chez Deo? Est-ce qu'il y en a un? En quoi ça nous concerne?
Mais là, j'ai pas la preuve, mais j'ai l'intuition. Mais c'est plus qu'une intuition, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai déjà écrit, parce que comment c'est venu cette histoire? C'est venu au moment où je faisais un autre de mes films qui s'appelait Journal intime des affaires en cours. Donc pendant ce film-là, j'ai rencontré à la fois des banquiers suisses, des gestionnaires de fortune richissimes, et en même temps, je rencontrais des SDF. Et j'ai fait parallèlement un livre qui s'appelle Portrait de groupe avant démolition, avec un photographe qui vivait dans la rue. Et donc, à un moment donné, j'avais cette image, mais j'avais pas la chaîne entre les deux images. La première image, c'était un SDF qui meurt sur un banc, un mouvement de tête. Et l'autre image, c'est un broker, ou un broker qui transfère des fonds à Zurich. Il appuie sur une touche. Et je trouvais que appuyer sur une touche, c'était comme appuyer sur une gâchette. Et que quelque part, la balle, après avoir fait 1000 circonvolutions, c'était celle qui atteignait le SDF qui était en train de crever. En d'autres termes, l'apparition de cette nouvelle pauvreté dans une société qui est quand même considérée comme très riche, on peut pas l'analyser si on prend pas en compte ce problème d'évasion de capitaux. Pourquoi un pays, pour parler de la France, qui est si riche, produit cette pauvreté-là? Et donc, je suppose, et j'essaie de prouver que une société comme Clearstream, elle a un rapport avec cette fabrication de pauvreté, parce qu'elle permet une évasion de capitaux. Et le broker qui est à Zurich et qui transfère des fonds se sert de ces outils comme Clearstream pour dissimuler. Et pour dissimuler des transactions, et que l'argent qui n'arrive pas en bout de course dans les entreprises, elle va enrichir certaines personnes. Je vais peut-être heurter des altermondialistes qui sont anti-libéraux, etc. Mais je suis pas anti-libéral. Moi, je pense que le libéralisme, en tant qu'idéologie, en tant qu'idée, c'est une très belle idée. C'est-à-dire que le marché, j'ai rien contre le marché. Le problème, c'est pas le mode d'emploi, c'est la manière dont on utilise le libéralisme. Et donc, le libéralisme, il foire complètement si le marché n'est plus le juge de paix. Et si les gens trichent, c'est plus possible. Parce que là, ils induisent de la tricherie, donc ça fabrique des prédateurs, et ce sont ces prédateurs financiers qui tuent le libéralisme et qui tuent le marché. Et une boîte comme Clearstream, d'ailleurs, si on réfléchit bien, elle aide beaucoup les prédateurs financiers, parce qu'ils subsistent quand même, sans doute. Il subsiste des entrepreneurs ou des gens qui embauchent des... C'est-à-dire, il y a des types qui essaient d'être honnêtes dans le système, mais c'est de plus en plus dur pour eux, quoi. Parce qu'en face, ils ont des gens qui trichent. Donc c'est plus la libre concurrence, c'est plus tout ça, quoi. Et qui est-ce qui permet cette dissimulation? Encore une fois, on retombe sur des multinationales comme Clearstream. Je suis désolé de chaque fois ramener à ça, mais quand vous réfléchissez 5 minutes et quand vous étudiez les comptes de ces boîtes, c'est pas une boîte anodine, quoi. C'est un truc énorme.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Denis Robert, suite de l'entretien dans le petit jardin avec les petits oiseaux et les portes qui claquent.
Est-ce que vous avez repéré des multinationales et ou des banques qui ont un compte non caché puis un compte caché?
Ah bah oui, mais ça c'est le lot commun, ça. Il y a plein de problèmes de dysfonctionnement, quoi. Mais il y a surtout des comptes qui sont strictement non publiés. Et puis toutes les grosses banques ont des comptes publiés. Enfin, il y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils font dans le règlement intérieur, il y a une possibilité d'ouvrir des comptes, ce qu'ils appellent des comptes additionnels. C'est-à-dire que vous, si vous êtes très riche, si vous êtes un particulier, vous pouvez avoir un compte chez Clearstream. Il n'y aura pas votre nom. Il y aura le nom de une banque, elle va ouvrir un compte, mais uniquement pour vous.
Sans mettre mon nom, mais comment je vais me retrouver?
Ben parce que vous aurez un numéro de code à 5 chiffres, et puis votre banquier ou le type, l'ingénieur financier avec qui vous travaillez, gérera vos fonds à partir de ce compte-là, mais vous serez le seul mandataire du compte. Et il y a peut-être votre nom d'ailleurs, si on retrouve généralement, ils ne mettent pas les noms de particuliers dans les listes.
Et quand Clearstream peut-elle faire croire, j'espère que je n'aurai pas de procès, qu'elle est honnête, si effectivement elle permet d'avoir ces fameux comptes additionnels qui visiblement ne peuvent que cacher quelque chose, enfin...
Non, mais Clearstream, la notion d'honnêteté est antinomique de Clearstream. D'abord parce que Clearstream, c'est pas une personne morale, enfin, c'est une société qui appartient à Deutsche Börse Clearing, et l'honnêteté, ils n'en ont absolument rien à faire, c'est pas leur problème.
Qu'est-ce qui se cache derrière ça, par exemple, pour vous attaquer?
Ils m'attaquent parce que comment voulez-vous qu'ils admettent une seconde que ce que je dis est possible ou vrai? Et comme ils peuvent pas me faire taire, ils sont obligés d'attaquer, de faire durer les procès, etc. Ils sont dans une stratégie
d'épuisement
et d'usure, quoi. Mais bon, comment dire, c'est comme ça.
Finalement, là, enfin, moi, ce que j'ai compris quand je lis les journaux, Claire Stream va dire, mais je suis très honnête, une chambre de compensation, c'est tout à fait normal. Je suis l'honnêteté incarnée. Et visiblement, il est avéré qu'ils ont effectivement des comptes
cachés,
des comptes cachés ou des comptes voilà, ouverts à des personnes en mettant pas leur nom, etc. Je vois pas comment, si effectivement ça s'est prouvé, comment ils peuvent à la limite presque même trouver des soutiens, puisque c'est l'évidence.
Mais non, mais c'est parce qu'ils ont leur siège à Luxembourg. C'est parce que il n'y a pas de justice possible. Luxembourg, il a fait un non-lieu qui est assez incroyable dans cette histoire. Il y a eu une instruction d'ouverte, mais il y a eu plein de problèmes de prescription, et c'est impossible d'enquêter sur Clearstream. Donc voilà, c'est ce qui les protège. Donc moi, je peux dire ce que je veux. Eux, ils sont protégés par le système judiciaire luxembourgeois. Donc c'est ça le problème de fond.
Et la justice française ne peut pas...
Non, parce que il y a des europarlementaires européens qui ont essayé de créer une commission d'enquête en 2002. Ils étaient très nombreux, ils étaient presque une centaine. Il y avait des Finlandais, des Anglais qui avaient lu le livre et qui s'étaient mobilisés. Et donc ils ont posé une question, ils ont dit, est-ce qu'on peut obtenir une commission d'enquête européenne sur Clearstream? Ça, c'était la seule chose qui aurait été formidable, parce que une commission d'enquête européenne, elle aurait pu avoir un pouvoir de coercition, c'est-à-dire obliger les dirigeants à parler, etc. Et à ce moment-là, le commissaire européen qui doit prendre la décision d'accorder ou pas la commission d'enquête dit non, et il dit l'État luxembourgeois est souverain, nous, Commission européenne, on n'a pas à mettre notre nez dans cette histoire. Sauf que le commissaire en question s'appelle Fritz Bolkenstein, c'était avant les fameuses affaire le concernant, et que on a découvert après coup, grâce à un autre europarlementaire type très bien qui s'appelle Paul van Buitenen, que ce Bolkenstein était non seulement membre du conseil de surveillance de Menatep, qui est une banque russe qui a des comptes chez Clearstream, mais il a été aussi un des hauts dirigeants de la Shell, la compagnie pétrolière hollandaise, qui a aussi des comptes chez Clearstream. Donc c'est là où on voit la force des lobbies et qu'ils s'en sortiront toujours, à moins d'une forte mobilisation, à moins de manifs organisés là-bas, à moins de je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, Clearstream, c'est quelque part un talon d'Achille dans le système. Et le fait qu'ils aient été repérés, ça va finir par, enfin, je sais pas. De toute manière, moi, le temps joue en ma faveur, c'est-à-dire que les livres se diffusent, je pourrais passer ma vie à faire des conférences, des interviews. Le fait que vous m'interviewez, que c'est tout ça, les gens commencent à comprendre l'importance de tout ça. Et puis l'affaire Clearstream 2, celle du corbeau qui sort en France aujourd'hui, sur lequel je vais écrire ce bouquin, elle est finalement, c'est sans doute mon livre le plus accablant pour Clearstream, alors que je parle presque pas de l'affaire 1 dans le film, dans le livre, mais on voit bien que aujourd'hui en France, pour tout le monde, c'est admis que Clearstream est une boîte pourrie. Et alors ils ont beau faire de la com là-dessus, etc. Et il y a plein de méprises autour de tout ce que disent les gens sur Clearstream. Ils parlent de banque, ils parlent de, enfin, les gens se rendent pas compte de ce que c'est, quoi. Mais en même temps, en termes d'image et de réputation, c'est assez terrible pour eux. Sauf que le business n'a jamais autant marché pour Clearstream. Ils ont fait 14% de bénéfices l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Et donc voilà, quoi. C'est un tel outil formidable pour tous ceux qui veulent dissimuler que c'est pas de mal à veille que ça va s'arrêter, quoi.
Et oui, donc c'était des sous et des hommes en compagnie de Denis Robert. Alors pas facile d'expliquer Clearstream et de prouver ses dires en une demi-heure. Alors le mieux, c'est sans doute de le lire. Je vous rappelle les titres de ses livres. Il y a Révélation, La boîte noire, Clearstream, l'enquête, qui devrait bientôt sortir aux éditions Les Arènes, et puis un roman qui s'appelle La domination du monde, qui traite l'affaire lui aussi. Alors, la semaine prochaine, nous allons recevoir Christian Chavagneux, qui est rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative Économique et qui a écrit avec Ronan Palan un petit livre aux éditions La Découverte dans la collection Repères et qui s'appelle Les paradis fiscaux. Il y explique très clairement ce que sont les paradis fiscaux, comment ils fonctionnent et surtout, et c'est ce qui m'intéressait, en quoi les paradis fiscaux ne sont pas un épiphénomène du capitalisme actuel, mais, je le cite, l'un des piliers sans lequel la mondialisation économique ne pourrait pas fonctionner. Je pense qu'il sera intéressant de réécouter ce que dit Denis Robert après ce que nous dira Christian Chavagneux. Ça pourra peut-être alors devenir absolument lumineux. Voilà, à la semaine prochaine.